Europe 1.
Ondelat raconte.
Christophe Ondelat.
Cette histoire n'est pas facile à digérer, je vous préviens. Il s'agit de l'histoire d'un violeur et tueur en série qui s'appelle Denis Vaxin. À la fin des années 80 et au début des années 90 à Lille, il a violé et tué 3 petites filles, et violé sans les tuer une petite fille et 2 petits garçons. Son nom ne figure pas, étrangement, dans le panthéon des tueurs en série. Mais il s'agit bien de l'un des pires criminels de l'histoire de France. Pour le débrief, je ferai appel à l'un de ses avocats, maître Frédéric Delporte du barreau de Lille, interview à écouter dans un deuxième podcast, disponible sur votre application. J'ai écrit cette histoire avec Hawkis, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Elle s'appelle Nadja, mais elle a 4 ans. On l'est en juillet 1992 et elle passe ses vacances chez Mamie Meriem, dans un HLM du quartier sud de Lille. C'est cool, les vacances chez Mamie Meriem. Elle habite au rez-de-chaussée, alors on peut jouer dehors. Et comme Nadja a plein de cousins qui habitent le quartier, eh bien cet après-midi-là, ils sont une dizaine dehors à piailler et à se poiler. Hé Nadja ! Nadja, viens voir. J'ai quelque chose pour toi, viens vite. Mamie Meriem a fait des beignets et elle les passe un par un par la fenêtre de sa cuisine aux gamins qui jouent dehors. Ha ! Elles sont trop cool, ces vacances chez Mamie Meriem. Vers 5h30, sa cousine Anissa, la plus grande, voit la petite Nadja entrer dans l'immeuble. Et quelques minutes plus tard, elle la voit ressortir dans les bras d'un homme. C'est qui celui-là? Mais qu'est-ce qu'il fait avec Nadja dans les bras? Alors elle décide de le suivre. Mais l'homme marche vite. Anissa a du mal à le suivre. Et à un moment, elle le perd de vue. Mamie! 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 Il y a un monsieur qui a amené Nadja avec lui. Je sais pas qui c'est. J'ai essayé de le suivre, mais j'y suis pas arrivé. Nadja vient d'être enlevée par un inconnu. 4 ans! La famille refait le chemin en long, en large et en travers. Vous avez pas vu une petite fille dans les bras d'un monsieur? Une petite fille de 4 ans? Ah non, j'ai rien vu du tout. Le soir arrive. Nadja est introuvable. Alors sa mère va voir la police. Un enlèvement d'enfant. Les policiers se mobilisent tout de suite. Ils déboulent à 60 dans le quartier. C'est toi, Anissa? C'est toi qui as vu le monsieur emmener ta cousine? Oui, c'est moi. À quoi il ressemblait, ce monsieur? Il avait un t-shirt rouge et un pantalon de survêtement. Je me souviens, il y avait des rayures sur le côté. La couleur de ses cheveux? Pas noir, pas blond, on dit châtain, je crois. Et il était grand? Oh oui. Grand comment? Grand comme vous. Autrement dit, 1m80. La nuit tombe, Nadja n'est toujours pas réapparue. Le lendemain matin, ils sont au moins 70 policiers à fouiller les environs. Et comme on a parlé de la disparition de Nadja au journal des Fers 3, des tas de gens appellent pour dire « je les ai vus ici » ou « je les ai vus là ». Mais toutes les pistes tombent à l'eau. Bon, ça fait 3 jours qu'on court après ce type. S'il avait libéré la petite, on l'aurait retrouvé, non? Ça sent pas bon, hein? C'est un cadavre hein, qu'on va finir par trouver, tu crois pas? Évidemment, tout le monde y pense. 3 jours, une petite fille de 4 ans. S'il ne l'a pas relâchée tout de suite, c'est sans doute qu'il l'a tuée. Tuée, probablement violée, avant. Six jours après l'enlèvement de Nadja, un agriculteur de Ronchin, la ville voisine, appelle les gendarmes.
Je vous appelle parce que
Les gamins viennent me dire qu'ils ont trouvé le corps d'une petite fille sur un terrain vague.
Les gendarmes se précipitent sur place. C'est une petite fille, effectivement. Elle doit avoir dans les 4 ou 5 ans. Elle n'a plus ni son pantalon ni sa culotte. Et sa tête, mon Dieu, sa tête. Elle est entourée d'un sac plastique bien noué autour du cou. Et vu ses vêtements, eh ben, il n'y a pas de doute. C'est Nadja. Le corps de Nadja est immédiatement emmené à l'Institut médico-légal de Lille. Le compte-rendu du légiste fait froid dans le dos. Bon, première chose, cet enfant a été tué dans les heures qui ont suivi son enlèvement. Elle est morte de quoi, docteur ? C'est difficile à dire, j'ai relevé 3 causes possibles de décès. D'abord l'étouffement dû au sac plastique autour de sa tête. Possiblement des saignements entraînés par les coups de couteau multiples qu'elle a reçus au cou et dans les cervicales. Et peut-être les souffrances extrêmes du viol, hein, qui a été d'une brutalité inouïe. Et cette blessure là sur la joue, c'est quoi ? Sa joue a été découpée et enlevée au couteau. Pardon ? Oui, découpée et enlevée au couteau. C'est-à-dire que non seulement le type l'a enlevée, il l'a violée, il l'a massacrée à coups de couteau, il l'a étouffée avec un sac plastique, mais il lui a aussi enlevé une joue. Mais quelle horreur ! Quelle horreur ! La bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que le bonhomme a laissé une toute petite tache de sperme sur les vêtements de la petite Nadja. Et on en a tiré un ADN. Attention, on est en 1992, au tout début de l'utilisation de l'ADN par la police scientifique. Et il n'y a aucun fichier auquel comparer cet ADN. Mais bon, si on trouve le gars, ben, on pourra lui dire c'est toi, ou c'est pas toi. Et s'il a commis d'autres crimes, on pourra les relier au meurtre de Nadja. C'est déjà ça. En attendant, les flics de la PJ de Lille travaillent à l'ancienne. Bon, t'as pu faire la liste de tous les tordus du cul du coin ? Ouais, ouais. J'en ai compté 39. On les a tous interrogés. On a fait un test ADN à 4 d'entre eux, ceux qui avaient vraiment le profil. Ma cache, ça a rien donné. C'est alors que les policiers de la PJ de Lille ont une intuition. Tu te souviens du meurtre de la petite Nathalie qui avait 6 ans en 85 et puis de celui de Cathy, à 9 ans en 90. Elles habitaient le même quartier de l'île Sud. Je mettrais bien un billet sur le fait que c'est le même gars, moi. Et là, il faut que je vous raconte. Nathalie, d'abord, 6 ans. En novembre 1985, elle va faire des courses pour sa maman et elle ne rentre pas. Son cadavre est retrouvé dans la soirée sur un terrain vague. Regarde, on a exactement le même modus operandi. Donc à l'époque, la gamine est retrouvée à demi nue avec les vêtements relevés au-dessus de la poitrine. Elle a pris 2 coups de couteau en plein cœur et elle a été étranglée avec l'élastique du collier de bonbons qu'elle venait d'acheter à la boulangerie. Le même scénario. Et par ailleurs, le corps a été retrouvé, comme dans notre affaire, à 200 mètres de chez elle. Et par hasard, on n'a pas retrouvé de l'ADN à l'époque. On avait une tache de sperme. Mais en 85, l'ADN, comme tu le sais, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc à l'époque, on n'avait pas réussi à sortir un profil, quoi. Et l'enquête, ça avait donné quoi ? Une femme avait dit avoir vu une 4L verte dans laquelle elle pensait avoir vu la gamine qui était garée juste devant la boulangerie où elle était allée, qu'elle avait vu prendre la direction du terrain vague où on a retrouvé le cadavre. Bon, à l'époque, les collègues avaient dressé la liste de 7000, je crois, propriétaires de 4L vertes. Ils en avaient interrogé 30, ça avait rien donné, quoi. D'accord. Attends, c'est pas tout. Dans la foulée, un ouvrier algérien qui habitait dans un cabanon qui était tout près du terrain vague où on avait retrouvé le corps de la petite s'est suicidé, figure-toi, en se jetant sous un train. Il paraît que le gars était obnubilé par la mort de la petite Nathalie. Et il aurait dit à son médecin qu'il avait fait quelque chose de mal. Mais bon, on n'a pas pu relier formellement cette histoire au crime, quoi. Et ça s'est terminé par un non-lieu. Et la petite Cathy, alors ? 5 ans plus tard, en 90 ? La petite Cathy avait 9 ans. Et c'est un peu la même histoire. Elle jouait au pied de son immeuble. Vers 8 heures du soir, son père l'a appelée par la fenêtre. Hé, Cathy ! Tu rentres maintenant, on va dîner ! Mais elle n'est jamais montée et elle a disparu. On a retrouvé son cadavre le lendemain sur un terrain de foot désaffecté, à moins d'un kilomètre de son immeuble. Idem, à moitié nu, tué à coups de couteau. Le légiste en a compté 14. Et bien sûr, elle aussi a été violée. Et là encore, l'enquête n'a rien donné. Si on se résume, on a donc 3 meurtres de petites filles qui avaient entre 4 ans et 9 ans. Toutes les 3 habitaient le même quartier de l'île Sud. Toutes les 3 ont été violées. Toutes les 3 ont été tuées à coups de couteau. Les 3 cadavres ont été retrouvés dans les heures qui suivent la disparition. À chaque fois sur un terrain vague, proche des lieux de l'enlèvement. C'est peu dire que les 3 affaires se ressemblent. Nathalie, Cathy et Nadja ont probablement été violées et tuées par le même homme. Qui serait donc un tueur et un violeur en série. Un type attiré par les petites filles est capable d'une violence inouïe. Mais est-ce que ce rapprochement entre ces 3 affaires fait avancer l'enquête ? Eh ben non. Pendant 7 ans, il ne se passe rien. Sept ans plus tard, en janvier 1999, une femme se présente à la brigade des mœurs de la Sûreté urbaine de Lille. Elle tient par la main une petite fille qui a l'air terrorisée. Je viens de la trouver en larmes dans la rue. La pauvre, elle savait plus où elle était. On dirait qu'il lui arrivait quelque chose de terrible. Très bien. Merci de nous l'avoir amenée, madame. Tu viens ? Tu nous suis ? Tu vas nous raconter ce qui est arrivé. Comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Julie.
Julie est installée dans un bureau. Elle a 6 ans. Et ça n'est jamais facile de faire parler une petite fille aussi jeune.
Dis-moi, Julie, tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé ? Ben, ce matin, j'étais avec mon grand frère et ma grande sœur en bas de notre immeuble. On demandait des pièces jaunes aux gens, c'est pour l'opération pièces jaunes qu'on fait à l'école. Comme il n'y avait pas beaucoup de monde, mon frère et ma sœur, ils sont montés pour sonner chez les gens. Et moi, je suis resté en bas pour attendre. Mais il y a un monsieur qui est passé. Je lui ai demandé s'il n'avait pas des pièces. Il m'a dit, j'en ai plein, mais elles sont chez moi. Il avait l'air gentil. Il m'a pris dans les bras pour m'emmener chez lui. Je lui ai dit que j'avais pas le droit de quitter le quartier. Il m'a répondu qu'il n'y en avait pas pour longtemps.
Elle dit qu'ensuite, l'homme l'a entraîné au-delà du périphérique sud. Qu'ils ont traversé une voie ferrée et qu'elle s'est retrouvée sur un terrain vague avec une usine, une vieille usine désaffectée. Et que là, il l'a traînée jusqu'à un bâtiment.
Il m'a demandé de me déshabiller. Et comme moi, je voulais pas, il a pris comme une matraque avec de l'électricité. Il m'a dit, si t'arrêtes pas de pleurer, je te tuerai. Et il a dit qu'il avait déjà tué des petites filles avant. Et que je verrai plus mes parents.
Il Elle raconte qu'il l'a déshabillée, que lui s'est déshabillé aussi, qu'il s'est mis dans son dos, qu'il l'a serré très fort. Et avec ces mots, elle explique qu'il s'est masturbé et qu'après, il a remis son pantalon et qu'il lui a dit « Si tu racontes ce qui s'est passé, je te jure que je te retrouverai et que je te tuerai. T'entends ?» Elle dit que l'homme avait un blouson vert avec un triangle dans le dos. Julie aide à faire un portrait robot, celui d'un homme d'une trentaine d'années avec des yeux noirs et le crâne un peu dégarni. Quelques jours plus tard, la mère de Julie appelle la police.
Ma fille Julie, elle a vu son agresseur ce matin. Elle était à la fenêtre de la cuisine, elle l'a vu qui marchait dans la rue. Et lui aussi, il l'a reconnu, il lui a fait un sourire.
Les policiers placent aussitôt quatre hommes en bas de l'immeuble. Et quelques heures plus tard...
Patrouille pour autorité. On a en face de nous dans la rue un homme qui ressemble au portrait robot.
Ok, vous interpellez.
L'homme est arrêté et emmené à la PJ. Clic la Kodak, les policiers lui tirent le portrait. Et ils vont immédiatement montrer la photo à Julie au milieu de cinq autres photos prises au hasard dans leur fichier.
C'est lui qui m'a fait mal, là.
Zut! Elle vient de désigner la photo numéro 6 qui est celle d'un autre homme.
T'es sûr que c'est lui? Regarde bien encore.
Et elle désigne encore la photo numéro 6 qui n'est pas celle du suspect. Zut! 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 Mais à propos, c'est qui le numéro 6?
Denis Vaxin, 31 ans. Marié, agent d'entretien dans une station-service de Villeneuve-d'Ascq, interpellé il y a 12 ans pour vol d'ustensiles de cuisine dans une grande surface.
C'est tout?
Ouais, c'est tout.
La petite a dû se tromper, c'est pas possible.
On va le convoquer. On verra bien.
Deux jours plus tard, Denis Vaxin se présente au commissariat. Il transpire comme un bœuf.
Bien. Alors voilà, on vous reproche d'avoir agressé une petite fille, monsieur.
Ouais, je sais, j'ai fait quelque chose de grave. Mais vous pouvez pas comprendre. J'ai plus rien à vous dire.
Nom de Dieu. Les policiers font revenir Julie.
Regarde bien, Julie. Est-ce que le monsieur qui t'a fait du mal, il est là, parmi tous ces hommes qui sont là devant?
Et elle le désigne à nouveau, en larmes. Ça serait donc lui?
Monsieur Vaxin, vous avez été désigné par la petite fille comme étant celui qui l'a agressé sexuellement.
Oui, c'est moi. De toute façon, je suis foutu. Vous avez comme mettre une balle dans la tête.
Denis Vaxin est mis en examen pour viol et séquestration sur mineur de moins de 15 ans et il est écroué à la maison d'arrêt de Loos. Mais c'est pas fini. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Julie juste après son agression?
Et il a dit qu'il avait déjà tué des petites filles avant.
Dans l'immédiat, les dossiers concernant le meurtre de Nathalie en 85 et de Cathy en 90 sont classés. Mais pas celui de Nadja. En 1992. Dans cette affaire, vous le savez, on a une empreinte ADN. Alors on compare avec l'ADN de Vaxin. C'est lui, bordel! C'est lui aussi!
Je reconnais. C'est moi qui ai violé et tué la petite Nadja, vous dites? Ouais, c'est moi.
Allez, il est chaud. Maintenant, il faut lui parler du viol et du meurtre de Nathalie et de Cathy.
J'en ai assez. Je vous dirai rien. Je vais retourner en prison. Mais demain, je vais bien parler au juge du meurtre des trois fillettes.
Très bien. Le voilà donc face au juge Christophe Ingrin. Il commence par confirmer le viol et le meurtre de Nadja. Et il le raconte en détail, au point que la greffière manque de tourner de l'œil, tellement il a l'air de se régaler de son récit. Et puis, comme promis, il enchaîne avec le récit toujours aussi détaillé et toujours aussi sordide du viol et du meurtre de Nathalie en 1985 et de celui de Cathy en 1990. C'est un violeur et tueur en série. On s'en doutait. Il vient de le confirmer. Dites-moi, monsieur Vaccin, qu'est-ce qui vous a amené à commettre de telles horreurs?
Moi aussi, j'ai été une victime quand j'étais petit. J'avais 12 ans. Il y a un clochard, il m'a enfermé dans une cabane dans les bois, il m'a violé. Il m'a défoncé. Alors pour moi, c'est une vengeance, quoi. C'est une envie, elle me vient quand je bois de l'alcool. C'est comme si je me transformais, quoi. Je dirais, il y a deux Denis Vaccin. Il y a celui qui travaille, qui est marié, qui est fidèle. Et puis il y a celui qui est méchant, qui boit. Et qui marche longtemps à la recherche de gamines.
Il avait 17 ans quand il a violé et tué Nathalie. 17 ans. Et à peine 22 quand il a violé et tué Cathy. Une semaine plus tard, dans une lettre qu'il écrit au juge, Vaccin écrit « Au début, je voulais juste les violer. Mais comme j'avais mon sperme dans elle, j'ai eu peur qu'elle donne naissance à des monstres, comme celui qui m'a fait tant de mal quand j'étais enfant. Alors je les ai tués. » Ce type est dingue! Enfin, elles avaient 6 ans et 9 ans, du con! Comment voulais-tu qu'elles tombent enceintes? Et c'est toujours pas fini. Partie pour partie, dans sa lettre, Denis Vaccin s'accuse d'autres viols. 3 fillettes qu'il a laissées vivre parce qu'elles s'étaient conduites gentiment et 2 petits garçons de 7 et 10 ans. Le juge n'arrivera pas à retrouver dans les fichiers la trace du viol des petites filles. Mais des 2 petits garçons, oui. Il les a violés en novembre et décembre 1993, 1 an et demi après le meurtre de Nadja. On veut savoir qui est cet affreux bonhomme, comment il s'est fabriqué, comment s'est construite sa monstruosité. Attention, je n'ai pas dit que c'était un monstre, ça serait trop facile. Malheureusement, c'est un homme, comme nous, une erreur de fabrication qu'il nous faut assumer. Alors voilà, il naît en 1968 et grandit à Wattigny, au sud de l'île, dans une famille modeste de 5 enfants. Un père brut de décoffrage qui passait son temps au PMU et une mère sans tendresse qui faisait le ménage dans une école. C'est toujours la même histoire. Les psychopathes se construisent toujours de la même manière, sur une enfance sans affection. Ça donne un adolescent violent qui un jour menace sa sœur avec un poignard parce qu'elle tarde à libérer la salle de bain. Le jeune Denis Vaccin n'avait que son grand frère sur lequel s'appuyer un peu. Le seul qui lui donnait un peu d'affection. Mais le frère a quitté le foyer familial en 1985 et c'est juste après, à l'âge de 17 ans, que Denis a tué et violé Nathalie. Il était puceau. Ça a été sa première expérience sexuelle. Ensuite, il s'est marié à 23 ans. Il a trouvé un emploi stable dans une station-service. C'était un employé ponctuel et sérieux, dira son patron, mais parfois violent, capable de sortir de la station-service comme un diable de sa boîte et de vider le chargeur d'un pistolet d'alarme sur quelqu'un qu'il soupçonnait d'avoir volé une paire de lunettes. « Au cours des nombreux interrogatoires qui ponctuent les deux années d'instruction, Denis Vaxin varie beaucoup dans le récit de ses crimes. Un jour, il dit qu'il n'a rien fait, et un autre jour, il assume tout. Et il finit par dire qu'il a menti quand il a dit qu'il s'était lui-même fait violer enfant.
J'ai dit ça, c'était pour atténuer ma peine, vous comprenez ?
Le premier procès de Denis Vaxin a lieu en mai 2002 devant la cour d'assises du Nord, à Douai. Il est jugé pour les viols et les meurtres précédés de tortures ou d'actes de barbarie de Nadja et de Cathy, et pour les viols des deux petits garçons et de Julie. Le dossier du viol et du meurtre de Nathalie fera l'objet d'un autre procès. Et dès le premier jour, il assume.
« Je mérite la mort !»« Je mérite la mort !»
Et après, dossier par dossier, il commence par donner tous les détails. Et puis il fait marche arrière. Il ne se souvient de rien. C'est un complot. Et sans surprise, il est condamné à la peine maximum, perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 30 ans. Il fait appel. Mais avant l'appel, il est jugé en septembre 2002 pour le meurtre et le viol de Nathalie. Il avait 17 ans, il était mineur. Le procès a lieu à huis clos. Ce meurtre, il l'a avoué devant les policiers et devant le juge. Mais au procès, il le nie d'un bout à l'autre. Peu importe en vérité, sur la base des similitudes avec les autres crimes, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, qui est la peine maximum encourue pour un mineur. Et là encore, il fait appel. Denis Vaxin est rejugé en 2003 à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, pour le viol et le meurtre de Nathalie alors qu'il n'avait que 17 ans. Ce crime, je le redis, il l'a avoué. Mais devant les jurés, il le nie à nouveau. Et il atteint le comble de la provocation quand il se met à genoux devant la maman de Nathalie et qu'il lui dit
« Vous êtes en train de commettre une erreur judiciaire. Mais je vous pardonne. À tous. »
La maman de Nathalie s'effondre et la salle d'assises gronde. À l'issue, il est à nouveau condamné à la peine maximale pour un mineur, 20 ans. On enchaîne 3 jours plus tard avec le procès en appel pour les meurtres de Nadja et de Cathy et les viols de Julie et des deux petits garçons. Ça peut choquer. Mais la présidente de la cour d'assises a décidé d'y aller en douceur, pour ne pas le braquer, pour en tirer le maximum. Et elle a eu bien raison, car le troisième jour, Vaxin craque. Ses avocats n'y sont pas pour rien. C'est eux qui l'ont poussé à tout lâcher. Pendant une heure, Vaxin se met à raconter les crimes, un par un, toujours en détail. Comment il a approché ses victimes, comment il les a violées, comment il les a torturées et comment il les a finalement tuées. Y compris pour Nathalie, crime qu'il a nié devant la cour quelques jours plus tôt. Et puis naturellement, on se tourne vers un expert psychologue.
Comme la plupart des pédophiles, c'est quelqu'un qui ne s'embarrasse pas de liens d'affection, de jeu ou de complicité avec ses victimes. Son rapport avec ses victimes est excessivement abrupt et la finalité de l'acte sexuel est au service d'une domination terrible de l'enfant qui est réduit à l'état d'objet. Il est pervers, il est immature, il est égocentrique et il est habité de fantasmes obsessionnels sanglants et morbides. Je dirais qu'il y a dans la démarche de Denis Vaxin qui tue les filles et qui ne tue pas les garçons, une volonté évidente de tuer la mère.
À la fin, le pauvre Jean-Yves Moyard, l'un des avocats en charge de le défendre, fait ce qu'il peut pour lui redonner un peu d'humanité. Plusieurs fois, il est interrompu par un Vaxin en larmes.
Pardon. Pardon. Pardon.
Et sans surprise, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 29 ans. Pourquoi 29 et pas 30? Il faudrait le demander aux jurés, mais ils n'ont pas le droit de le dire.
Vous avez aimé cette histoire? Christophe Ondelatte vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.